France Culture, Avoir raison avec Ariette Taylor-Mill par Géraldine Mosna-Savoie.
Ariette Taylor-Mill. Son nom ne vous dit rien, c'est normal. Née en 1807 à Londres, Ariette Taylor-Mill connaît la malédiction d'être une femme de... D'abord celle de John Taylor, puis celle d'un autre John, le philosophe John Stuart Mill. Le mariage, la conjugalité, le désir de divorce n'ont donc pas seulement été des expériences vécues pour elle, mais la matrice de sa pensée. En 1832, un peu comme des gages d'amour, il décide même de s'offrir et de s'écrire, avec John Stuart Mill, des essais sur le mariage. Et comble, Ariette en vient à défendre la fin de tout attachement, de toute affection. Comment en est-elle arrivée là ? Toute cette semaine, on mène l'enquête Ariette Taylor-Mill. Aujourd'hui, quatrième épisode, mais à quoi bon le mariage ?
Celle à qui j'ai dévoué ma vie m'a demandé d'exposer mes opinions sur le sujet qui, de tous ceux qui touchent aux institutions humaines, a le plus d'impact sur son bonheur. Tout ce que je peux écrire sur la question, sans l'aide de ses suggestions et de ses décisions, est contenu dans ces pages. Elle-même n'a pas craint de se livrer au même exercice, si bien que ses pensées et ses sentiments me seront communiqués et me permettront de retrouver les idées évoquées ci-dessous, ainsi que celles auxquelles je n'ai pas pensé. Dans la recherche de la vérité, comme dans toute chose, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ceci est d'autant plus vrai dans le domaine des rapports entre les hommes et les femmes, et les lois qui les régissent devraient, sans nul doute, être écrites par eux deux, et non pas, comme ce fut toujours le cas, par celui qui est le plus fort.
Well, Miss Everdeen, I wanted to ask, would you like to marry me? I've never asked anyone before.
No. I should hope not.
Je n'ai jamais vraiment pensé au mariage.
J'ai une centaine d'acres, un troupeau de 200 moutons. Si je rembourse ce qu'on m'a prêté, la ferme est à nous. Vous pourriez avoir un piano d'ici un an ou deux. Des fleurs et des oiseaux, un treillis pour les concombres, un enfant ou deux.
Monsieur Hawke.
Ou plus.
Monsieur Hawke, je ne veux pas d'un mari. Je détesterais en être la propriété.
Bonjour Ludmila Laurin.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes chercheuse associée au Centre d'histoire des philosophies modernes de la Sorbonne, enseignant dans le secondaire au lycée Marc Zormois de Champigny. De vous paraîtra bientôt un féminisme sans sujet, Mill, Taylor et l'émancipation des femmes. Ce sera dans la revue Philosophie aux éditions de Minuit. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est venue l'idée à Ariette Taylor et John Stuart Mill de s'écrire des essais sur le mariage en 1832, donc 2 ans après leur rencontre, dans lesquels finalement ils récusent cette institution du mariage?
Oui, alors je ne pourrais faire sur cette question que des suppositions puisque nous n'avons pas accès véritablement à la genèse de cette idée de s'écrire sur le mariage. Mais il me semble que assez rapidement, au moment où Mill et Ariette Taylor se sont rencontrés, Ariette Taylor commence à se sentir à l'étroit dans son mariage, son premier mariage. Hein. Et je pense que discutant des questions féministes qui les ont rapprochées, ils en sont assez rapidement venus à cette constatation qu'une des causes principales de l'asservissement des femmes en ce début du 19e siècle, ou première moitié du 19e siècle anglais, est cette institution du mariage. Et je pense que de là vient leur volonté de s'écrire à chacun ce texte sur le mariage, où ils livrent sans retenue ce que chacun pense de cette institution. Et ce sont des textes qui sont d'autant plus intéressants d'ailleurs que leur position à ce moment-là, donc vous venez de le dire, ils se sont rencontrés depuis peu de temps, quelques années, 2 ans, leurs positions sont assez divergentes en vérité. Si l'un et l'autre critiquent l'institution, Mill développe dans son texte une vision bien plus conservatrice du mariage et de la famille qu'Ariette Taylor.
C'est-à-dire conservatrice, parce que là on vient d'entendre un court extrait hein, de son texte à lui, où finalement, bon, il semble dire que c'est l'institution qui touche le plus au bonheur, puisqu'en fait ça va vraiment structurer un mode de vie, mais aussi les sentiments, mais il semble revendiquer dans cette institution une égalité des sexes, c'est-à-dire faire entendre autant l'homme que la femme. Qu'est-ce qu'il y a de conservateur dans sa position ?
Oui, alors c'est vrai que dans ce texte-ci, vous avez tout à fait raison de le souligner, Mill prône pour l'égalité des sexes, et c'est quelque chose qu'il défend depuis ses 17 ans, voire avant, depuis très jeune. À 17 ans, il s'est fait arrêter parce qu'il distribuait dans la rue. Il a fait une nuit en prison pour avoir distribué une brochure pour la contraception. Donc c'est une cause qui lui tient à cœur et il dit souvent que c'est ce qui l'a rapproché d'Ariette ou qui lui a attiré sa sympathie. Mais néanmoins, dans la suite du texte, Mill développe une vision assez conservatrice du rôle de chacun des époux dans le mariage, c'est-à-dire que chacun doit être égal à l'autre, mais en même temps, la femme, la nature lui donne ce rôle de s'occuper des enfants, notamment, qu'elle mettra au monde. Et il a tendance aussi dans ce texte-ci à s'opposer plutôt au divorce, et l'on pense souvent que ce serait Harriet Tyler, avec le texte notamment qu'elle lui envoie, qu'il changera petit à petit d'avis quant à la nécessité d'autoriser le divorce.
Donc ce qui veut dire que c'est un texte assez précoce en fait dans leur œuvre commune, ce qui fait qu'on peut imaginer que Mill, conservateur dans ce texte, va effectivement s'assouplir. Mais elle, Harriet Taylor Mill, est déjà, on pourrait dire, très libérale sur le sujet.
Tout à fait. C'est ce qui est frappant dans ces textes. Et en fait, nous avons accès, dans les œuvres complètes d'Harriet Taylor Mill, au texte qu'elle a finalement envoyé à Mill, ainsi qu'à 3 brouillons préparatoires au texte. Et ce sont des textes dont la radicalité est frappante, puisqu'il dépeint le mariage comme une forme de prostitution, en vérité, à laquelle s'adonnerait la femme. Et elle met vraiment sur le même plan le mariage et la prostitution comme seul moyen laissé aux femmes pour subvenir à leurs besoins. D'où la nécessité du divorce aussi, pour pouvoir les libérer de cette obligation. Mais elle a des textes, oui, d'une grande radicalité, et c'est frappant par rapport aux textes de Mill de cette époque. Et donc, on pense généralement, et enfin, en tout cas, je le pense aussi, que leurs discussions communes ont, en effet, fait évoluer la position de Mill sur un certain nombre de points.
Donc, Harriet Taylor, déjà beaucoup plus libérale, est-ce qu'on peut dire aussi, pour les distinguer et bien comprendre la position d'Harriet Taylor sur le sujet, que Mill va récuser l'institution conjugale, d'un point de vue peut-être plus politique, voire juridique, alors qu'Harriet Taylor va en faire une véritable question féministe, mais plutôt même intime?
Alors oui, c'est vrai que Mill, et c'est ce qu'on retrouvera dans l'asservissement des femmes plus tard, Mill s'attaque d'abord au mariage d'un point de vue légal. C'est d'abord les lois qui régissent cette institution contre lesquelles il s'érige. Et d'ailleurs, lorsque John Stuart Mill et Harriet Taylor se marieront bien plus tard, Mill rédigera un texte comme une sorte de profession de foi dans laquelle il déclarera qu'il se marie mais qu'il récuse et refuse, qu'il n'utilisera jamais le pouvoir que lui donne la loi sur sa femme. Et que s'il pouvait se marier sous d'autres lois, donner une autre forme à l'institution maritale, il le ferait. Nous sommes vraiment dans le registre de la loi, même si Mill travaille par ailleurs dans l'asservissement des femmes la question des relations des époux dans le mariage. Pour Harriet Taylor, en effet, c'est d'emblée, je dirais presque, une question, peut-être pas de vie ou de mort, mais le mariage détermine entièrement l'existence des femmes, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elles sont éduquées pour se marier, puisqu'elles passent du père au mari et qu'elles n'ont pas le droit d'être propriétaires de leurs biens et qu'elles n'ont, théoriquement, elles peuvent difficilement travailler en dehors du foyer. Donc c'est vraiment un moyen de subsistance. Et c'est aussi ce qui est utilisé, et elle montre le caractère fallacieux de cet argument, le mariage comme destinée des femmes naturelles est aussi ce qui est utilisé sans cesse pour justifier leur exclusion de la sphère économique et de la sphère du travail. Le fait qu'elles doivent être mères et femmes et qu'elles s'occupent du foyer leur interdit de fait l'accession aux autres fonctions de la vie politique et sociale.
Je vous propose, Ludmila Lorrain, qu'on écoute tout de suite ce texte, enfin en tout cas un extrait du texte qu'a rédigé Harriet Taylor. Comme ça, on entendra aussi bien sa voix sur le sujet.
On éduque les femmes dans un seul but, celui de gagner leur vie grâce au mariage. Être mariées, voilà l'objet de leur existence. Et une fois ce dessein accompli, leur vie prenne fin, véritablement. Du moins, une vie qui mérite ce nom ou qui n'est pas vaine. Être mariées, voilà l'objet de leur existence. Et une fois ce dessein accompli, leur vie prenne fin, véritablement. Du moins, une vie qui mérite ce nom ou qui n'est pas vaine. Peu de mariages reposent sur une réelle sympathie entre les époux et un véritable plaisir mutuel. La femme est consciente de son pouvoir et s'en sert pour obtenir ce qui, d'après l'éducation qu'elle a reçue, convient à son statut. La femme qui acquiert le pouvoir de la sorte n'est pas apte au pouvoir, mais elles utilisent néanmoins ce pouvoir pour de dérisoires avantages. et je suis étonnée qu'il ne leur soit jamais venu à l'idée d'en faire usage pour servir des ambitions moins limitées. Mais leurs esprits sont dégénérés, parce que trop habitués à la dépendance. Je crois que dans 500 ans, les gens penseront que de toutes les bêtises de leurs ancêtres, les plus incroyables et les plus méprisables auront été les lois contraignant les sentiments, ou plutôt l'expression de ceux-ci. Je ne doute pas que quand tout le monde sera vraiment éduqué, les lois qui encadrent le mariage, si elles existent toujours sous leur forme actuelle, tomberont en désuétude, parce que personne ne se mariera. Pour se débarrasser de ces calamités, le moyen qui toucherait le plus de gens et qui serait peut-être le plus rapide consiste à encourager l'éducation, qui est le remède de tous les maux. Mais en attendant, il est difficile d'accepter que ceux qui souffrent le plus de ces calamités et qui sont toujours les meilleurs d'entre nous soient laissés sans solution. Est-ce que le meilleur remède ne serait pas le divorce, auquel chacun aurait véritablement droit sans avoir à fournir aucune espèce de justification ? En s'acquittant d'une somme modeste, mais qui ne pourrait être prononcée qu'au terme d'une longue période.
Extrait du texte écrit par Harriet Taylor sur le mariage en 1832 et destiné à John Surmit. Alors c'est un texte très très dense, Ludmila Lorrain, il faut un petit peu le déplier, mais j'aimerais revenir sur l'idée de départ quand Harriet Taylor affirme « On éduque les femmes dans un seul but, celui de gagner leur vie grâce au mariage ». Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de vie ou de mort presque, la question du mariage. En fait, finalement, leur emploi à vie aux femmes, c'est d'être mariées. Et une fois qu'elles sont mariées, paradoxalement, eh ben leur vie prend fin. Comment elle a pu identifier à ce point-là existence et mariage ? C'était quoi en fait le statut d'une femme mariée à son époque pour qu'elle puisse affirmer ça ?
Alors, le statut de la femme mariée était qu'elle appartenait au mari, c'est-à-dire qu'elle devenait une propriété du mari. À partir de là, elle avait pour rôle, donc comme on le disait tout à l'heure, de s'occuper du foyer et de la famille, des enfants, du mari, de satisfaire les besoins de son mari. Harriet Taylor y insiste à plusieurs reprises, hein, cette attente qui est envers les femmes de satisfaire les besoins du mari, de rendre sa vie à lui plaisante, sans qu'on attende jamais qu'elle trouve du plaisir à son existence. Et je crois que c'est ça vraiment qu'elle identifie comme étant... C'est là qu'elle identifie mariage et existence. Vous avez tout à fait raison, cette formule est très bien trouvée, c'est-à-dire que la femme mariée ne devient plus que épouse. Elle n'existe plus comme individu. Elle n'a plus d'individualité. Et c'est ça qui est désastreux. Ça, c'est si on replace cette idée dans le cadre plus général de l'utilitarisme que Harriet Taylor partage en partie avec Mill, ce sont des expériences, des vies gâchées, comme dit Mill plus tard. Ce sont des vies où il n'y a que du malheur. On n'a pas de bonheur du tout.
L'autre idée qui apparaît, c'est le fait que Harriet Taylor aussi semble ne pas mâcher ses mots contre les femmes. Elle dit que leur esprit dégénéré est trop habitué à la dépendance. Elle souligne d'ailleurs le problème de l'éducation, de l'accès à l'éducation des femmes. Et ce thème de la dépendance et de l'habitude est vraiment fort chez elle. Quelle solution elle peut entrevoir à cette dépendance ? Comment on arrive à rendre les femmes moins dépendantes si le mariage, finalement, est la seule voie possible pour les femmes ? Est-ce qu'elle envisage, par exemple, le concubinage, ou pas seulement le divorce, mais des vies de célibataires ?
Alors, oui, elle parle dans son texte « The Enfranchisement of Women », elle parle du célibat. Elle souligne d'ailleurs, et c'est dans une formule assez bien trouvée, que de plus en plus de femmes, finalement, restent célibataires, puisqu'elles ont bien compris qu'une fois mariées, leur existence s'arrêtait. Et elle dit, c'est pas étonnant, on déplore l'augmentation du nombre de femmes célibataires de nos jours, mais peut-être est-ce que les femmes commencent à comprendre que le mariage signifie la fin de leur existence, la fin du bonheur. Alors elle souligne aussi que le célibat n'est pas une existence facile pour la femme de l'Angleterre victorienne, que toutes les barrières ne sont pas levées. Et elle souligne aussi autre chose à propos de la femme célibataire qui est intéressante, c'est que comme par ricochet ou par... Elle subit aussi l'injustice de la femme mariée, puisqu'on lui interdit aussi les carrières, un certain nombre de carrières à la femme célibataire et les droits politiques, parce qu'on les interdit à la femme qui doit se marier et qui n'aura plus le temps, plus l'énergie d'aller dans la vie sociale et politique, puisqu'elle aura un foyer dont elle aura la charge. Et Harriet Taylor souligne la double injustice qui pèse sur les femmes célibataires, qui seraient des femmes qui ont bien compris, si vous voulez, la duperie du mariage, puisqu'elles ont quand même ces interdits en face d'elles qui les empêchent en vérité de, bah, d'accéder à une vie heureuse au sein de laquelle elles pourraient développer leurs facultés intellectuelles et morales, comme les hommes y sont encouragés par ailleurs dans une société libérale.
Mais pourquoi finalement Harriet Taylor et John Stuart Mill ont décidé de se marier ? Enfin, la question se pose, c'est-à-dire que même si on est là sur le plan intellectuel hein, de Harriet Taylor et donc aussi de John Stuart Mill pour les comparer, pourquoi en fait ils ont décidé de se marier ? Ils étaient déjà considérés comme un couple excentrique, elle avait déjà d'une certaine manière quitté son mari pour vivre avec John Stuart Mill, pourquoi le faire ?
C'est une très bonne question. Je pense qu'il y aurait peut-être deux niveaux de réponse, un niveau pratique et un niveau théorique. Au niveau pratique, peut-être qu'il me semble avoir lu quelque part récemment que ça leur permettait quand même de régulariser leur situation, même si, vous avez bien raison de le souligner, ils étaient en fait mis à l'écart, et surtout Harriet Taylor, très rapidement de la société anglaise et lettrée, pour des mœurs qui n'étaient pas acceptables. La situation de John Stuart Mill était moins pénible, moins difficile que celle d'Harriet Taylor, de toute évidence. Il n'empêche que leur union était mal vue, mal reçue, mal perçue. Peut-être aussi des considérations bien plus pratiques sont entrées en considération, puisque Harriet Taylor a longtemps vécu avec sa fille, Helen Taylor Mill, qui a assisté ensuite Mill dans son travail, et c'était peut-être aussi une manière de marquer la filiation, je sais pas, entre sa fille et John Stuart Mill, puisqu'il l'a aussi pratiquement élevée et qu'ils ont travaillé ensemble après la mort d'Harriet. Et c'est elle qui a publié l'autobiographie de John Stuart Mill après son décès. Par ailleurs, sur un plan plus théorique, en vérité, Harriet Taylor et John Stuart Mill, par ailleurs, plus tard dans l'asservissement des femmes, décrivent ce que serait un mariage réussi. Et j'ai l'impression que l'un comme l'autre y tiennent énormément. Et on aurait pu croire que c'était quelque chose de John Stuart Mill, puisque lui restait attaché à l'institution du mariage, plus qu'Harriet Taylor, c'est vrai, puisqu'elle dit dans le texte qu'on vient d'entendre que les gens arrêteraient de se marier, probablement, s'ils en avaient la possibilité, enfin si les femmes en avaient la possibilité. Mais en même temps, quand elle décrit leur compagnonnage, on a aussi la perception que dans ces conditions, peut-être, le mariage pourrait être une institution satisfaisante.
C'est-à-dire qu'avec eux, il y a vraiment la naissance aussi peut-être du mariage d'amour, qui commence aussi à imprégner la littérature anglaise, où vraiment on a cette idée qu'on va plus seulement se marier par intérêt, mais aussi par sentiment, ce qui est un thème qui revient d'ailleurs à la fois chez Mill et chez Taylor, cette idée que le mariage va normer nos sentiments, mais que le mariage, s'il doit perdurer, doit au contraire être l'explosion de ces sentiments-là, l'épanouissement de ces sentiments mutuels.
Tout à fait, c'est vrai. Et si, c'est vrai qu'on pourrait presque dire qu'il participe à la construction de cette idée du mariage d'amour, dont beaucoup de travaux récents identifie la construction au XIXe siècle, tardive en tout cas, et tout à fait. Et d'ailleurs, même quand Harriet Taylor considère la possibilité du divorce, en vérité, il y a deux cas majeurs. Celui où l'on subit des mauvais traitements qui devraient être automatiques et qui devraient déjà être en vigueur, d'après elle, mais aussi le cas où les sentiments s'étiolent. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans ces textes, elle a tendance à souligner combien il faudrait envisager le divorce, mais peut-être pas d'emblée. Peut-être faudrait-il laisser un an, deux ans entre le moment où l'on déposerait la demande de divorce et le moment où il serait effectif pour être sûr qu'il n'y a rien à sauver.
Et d'ailleurs, elle insiste beaucoup à la fin de son texte sur le mariage, Harriet Taylor, sur l'importance du plaisir charnel. Alors à côté, John Stuart Mill, il fait presque un petit peu prude parce que, alors qu'il s'en tient plus à un point de vue légal, même s'il va évoluer, elle met quand même les pieds dans le plat, Harriet Taylor, en parlant du plaisir charnel, de son importance, et elle dit « plus la forme de jouissance est noble, plus le plaisir sera fort ». Ça pouvait être choquant, non, pour l'époque, de le dire comme ça ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce texte sur le mariage était à destination privée, et je pense aussi pour cette raison. Mais vous avez raison, c'est frappant. Mill n'en dit pas mot, il ne parle jamais, je crois. Je n'ai jamais rencontré dans son œuvre vraiment dont je suis assez familière, de références directes et claires, de réflexions sur le plaisir charnel au sein du couple, c'est quelque chose de central pour Harriet Taylor. Et ça l'est de deux manières, c'est-à-dire les relations sexuelles sont importantes dans le couple, et elle met aussi le doigt très directement, et elle le dit très clairement, sur le caractère forcé hein, de certaines relations dans le couple marié. Et donc c'est intéressant d'avoir ces deux points de vue, c'est-à-dire qu'elle considère vraiment les relations sexuelles dans le couple comme quelque chose d'important, de central, mais pas, même si bien sûr il y a d'autres choses. Et elle en voit à la fois la dimension désastreuse pour les femmes qui ne choisissent pas de se marier et la dimension tout à fait épanouissante pour les femmes qui le choisissent. Elle fait d'ailleurs une distinction entre plusieurs formes de sexualité dans le couple, plusieurs formes de sexualité en général, et en effet, elle distingue ce qu'elle appelle une sensualité qui se limiterait au plaisir des sens, finalement, et une forme de relation charnelle qui est porteuse des plus grands bonheurs et qui, cette fois-ci, est adossée à des sentiments plus nobles, plus hauts, hein, où on pourrait imaginer que l'esprit et le corps se rejoignent dans une relation à l'autre sur tous les plans, véritablement.
Alors pourquoi Harriet Taylor est-elle passée à certains moments, et vous me l'avez signalé juste avant l'émission, Ludmila Lorrain, pour quelqu'un de rigide et même voire de frigide, alors que clairement ces textes, même à destination privée, une fois qu'ils sont parus, prouvent bien qu'il y avait l'importance des sentiments, hein, du mariage d'amour, mais aussi, comme vous le disiez, de ces deux types de sensualité et de plaisir charnel.
Alors, une large part de cette image que l'on a eue, qui s'est construite dans les commentaires et chez les contemporains ou de l'époque victorienne, vient probablement d'une simple misogynie, ouais. Et d'une manière de désapprouver la vie d'Harriet Taylor et sa liaison puis son mariage avec John Stuart Mill. Je pense aussi que Mill, ayant été toute sa vie très prudent et très pudique sur ces questions, cela a rejailli sur Harriet. Et par ailleurs, puisqu'elle a quitté son mari et qu'elle a assez rapidement fait... ils ont été dans des maisons séparées. Il y a aussi eu cette idée qu'elle était en effet rigide et frigide et qu'elle avait trouvé en Mill un compagnon intellectuel qui, justement, ne demandait pas de contrepartie, si je puis dire, à la réunion. Il y a un autre élément biographique qui a pu jouer, mais qui n'aurait pas dû jouer pour en faire une personne frigide. Et quiconque connaît la maternité le sait, c'est qu'elle aurait très mal vécu ses accouchements, qui auraient été très difficiles. Et par ailleurs, mais ce n'est pas établi, mais c'est une supposition de la Ellen Jo Jacob qui a établi ses œuvres complètes en anglais. Probablement que lorsqu'elle a épousé son mari, donc son premier mari, John Taylor, celui-ci lui aurait probablement donné la syphilis. Et elle-même étant entrée naïve dans le mariage sans rien y connaître en matière de rapport charnel, voilà, ça aurait été quelque chose de très dur pour elle, hein, quelque chose qu'elle aurait vécu de manière très, très douloureuse. Et si je peux juste ajouter une petite chose, c'est d'autant plus intéressant que c'est un point sur lequel elle revient aussi, j'ai oublié de le mentionner, dans ses textes sur le mariage. Quand elle parle de des rapports charnels, elle souligne aussi combien lui semble invraisemblable d'exiger des jeunes femmes qui se marient qu'elles ne sachent absolument rien sur les rapports charnels, qu'elles soient bien entendu vierges lorsqu'elles se marient, mais aussi qu'elles ne sachent pas de quoi ils retournent et qu'elles doivent le découvrir le jour où elles se trouvent seules avec leur mari. Et ça, c'est quelque chose qui la révolte, on sent, dans le texte, on voit que c'est quelque chose qui la révolte, mais ce sont des suppositions, mais on peut imaginer que cela fait écho aussi à une expérience en première personne qu'elle a vécue elle-même lors de son premier mariage, qui du reste était un mariage d'amour, je crois.
C'est vraiment l'éducation pour Harriet Taylor, c'est pas seulement avoir accès au même savoir ou à des connaissances comme les hommes à travers l'école, c'est aussi en fait une éducation à la sexualité, en fait, très clairement.
Oui, tout à fait. C'est une éducation qui est à la fois théorique, en effet, il faut avoir accès au même savoir que les hommes, mais il faut aussi avoir accès, si l'on peut dire, au même savoir pratique, aux mêmes expériences de vie, en fait, à ce qu'ils les forgent comme individus. Et ne pas enfermer les femmes dans un monde éthéré qui ne les prépare pas du tout à la réalité de leur existence comme femmes mariées après.
Il nous reste quelques minutes, Ludmila Lorrain, et j'aimerais qu'on revienne sur le tout début en fait, du texte d'Ariette sur le mariage, pas celui qu'on a entendu, mais celui vraiment qui ouvre son texte et qui nous permettra d'approfondir la question des sentiments, parce que d'un côté, on l'a vu, hein, Ariette défend le mariage d'amour, elle accorde une importance toute particulière au plaisir charnel, à la sexualité, à l'éducation sexuelle, et au début de son texte, elle dit ceci « Si j'étais pour un temps la providence et régler les affaires du monde à la seule fin d'élever la condition des femmes, c'est vers vous que je me tournerai pour connaître les moyens de cette entreprise dont la fin serait de lever tous les obstacles à l'attachement ainsi qu'à tout ce qui constitue une manifestation d'affection ou peut-être supposée comme telle. » C'est assez déroutant pour une philosophe, hein, on peut le dire, qui a perçu avec une telle finesse l'importance des sentiments, de vouloir presque cette fin de toute manifestation d'affection. Comment vous la comprenez, vous, cette ouverture, Ludmila Lorrain ?
Alors, pour être tout à fait honnête, elle m'a déroutée aussi lorsque je l'ai lue et relue. Et j'ai du mal à lui donner un sens évident, si je puis dire. Mais j'avais eu l'impression que ce qu'elle demandait à John Stewart dans cette adresse était peut-être la fin du contrôle des manifestations d'affection, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer comme on l'entend ses affections sans que cela soit régi par des normes extérieures. Et ici, je l'avais l'impression que c'était à la fois en termes de normes légales, c'est-à-dire bien sûr les lois qui encadrent les manifestations d'affection dans l'espace public, par exemple, ou bien par le mariage, tout simplement, mais aussi peut-être les normes sociales et morales de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas.
Donc finalement, ce n'est pas une récusation de tout sentiment, loin de là. Parce que autant le terme de lever tous les obstacles à l'attachement peut être vraiment comprise comme une forme de dépendance, donc comme le mariage, des liens légaux extrêmement contraignants. Mais vraiment, c'est ce terme voilà, d'affection qui rentre vraiment en contradiction avec ce qu'elle défend, ou alors est-ce qu'elle en vient à suspecter justement tout type d'affection parce que risque de débordement, de viol, de violence conjugale. Est-ce que c'est ça aussi qu'elle peut avoir en tête quand elle dit ça ?
Alors oui, peut-être. C'est vrai que tant que les hommes et les femmes ne sont pas égaux et que les femmes n'ont pas l'égalité dans le droit et dans le mariage, il y a toujours ce risque aussi d'une dépendance qui soit affective et que les femmes ne voient pas elles-mêmes qu'elles se mettent dans ces schémas-là de dépendance. C'est quelque chose qu'elle a souligné, c'est vrai aussi dans ses textes, certains ont été coécrits avec John Stuart Mill sur les violences conjugales, où elle souligne en effet que certaines femmes les subissent un peu comme quelque chose qui fait partie du mariage et qui pourrait être accepté. Et c'est peut-être aussi les mentalités. Et là, c'est vrai que ce ne sont pas seulement les lois qu'il faudrait changer, mais travailler sur les représentations des jeunes filles et des jeunes hommes par ailleurs, de sorte que ces attachements psychologiques, si l'on peut dire, de conception de soi-même comme inférieure par nature, hein, et justifiant une dépendance, se dissolvent, hein, ou du moins se desserrent un petit peu.
Merci beaucoup Ludmila Lorrain de nous avoir parlé du mariage chez Ariette Taylor. Alors de vous, on pourra bientôt lire Un féminisme sans sujet, Mill, Taylor et l'émancipation des femmes dans la revue Philosophie aux éditions de Minuit. En 2025 aura lieu un colloque sur Ariette Taylor à l'université Paul Valéry que vous préparez avec Aurélie Knuffer que nous avons reçue cette semaine. Et bien sûr, auditeurs, auditrices, lisez John Stuart Mill et Ariette Taylor, écrit sur l'égalité des sexes, texte traduit et présenté par Françoise Orazi aux éditions ENS. Encore merci à vous Ludmila Lorrain.
Merci beaucoup.
Et un grand merci à Anaïs Isbert pour la préparation de l'émission, à Nicolas Berger pour la réalisation et à Élise Le pour la prise de son. Rendez-vous demain pour la suite de cette série sur Ariette Taylor Mill. Et d'ici là, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission pour la réécouter.